Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Elle est de passage dans le sud-ouest et à sa manière, c'est une star. Elle n'a pas connu Nelson Mandela ou Johnny Hallyday, mais Jésus lui-même. Cette semaine passe dans le sud-ouest les reliques de Marie-Madeleine, soit quelques restes de son corps exposés à la vénération des foules. Quel sens a cette dévotion apparemment morbide? D'où vient une telle tradition? Et si les chrétiens étaient assez fous, croyaient tellement en la vie éternelle que la mort et ses ossements ne les effrayaient plus? Reliques, histoire et sens d'une dévotion, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour nous en parler, il n'y a que des hommes, mais c'est une femme qui est à l'honneur, vous l'aurez compris. Donc Philippe Georges, vous êtes conservateur honoraire du musée et trésor de la cathédrale de Liège, donc en Belgique, et auteur d'un ouvrage intitulé « Reliques, se connecter à l'au-delà » paru aux éditions du CNRS. Bonjour.
Bonjour.
Est avec nous aussi François Dromard qui est conférencier, en tout cas à 16h, et membre de la communauté Réjouis-toi. Bonjour.
Bonjour.
Et puis nous rejoindra un petit peu plus tard Monseigneur Bernard Ginoux, qui est évêque de Montauban. Philippe Georges, on va commencer avec vous. Vous avez donc écrit ce livre. C'est un travail, j'allais dire, de bénédictin que vous avez fait. Reliques connectées à l'au-delà. Dans cette première partie d'émission, on va essayer de se plonger dans le monde des reliques et dans l'histoire des reliques. Quand on parcourt votre livre, il me semble que c'est dans l'introduction, vous dites qu'il est tout à fait impossible de dénombrer le nombre de reliques conservées à travers le monde. Est-ce que vous pouvez commencer par ça?
Ah oui, certainement, parce que on peut déjà pas dénombrer le nombre de saints. Alors vous imaginez évidemment les reliques qui ont été fragmentées, ça augmente le problème évidemment.
Alors à propos de ces reliques, il y en a de multiples. On va commencer par les plus importantes, en tout cas pour les chrétiens. Ce sont les reliques qui concernent donc Jésus lui-même.
Ce sont des reliques historiques de Jésus et la plus connue évidemment c'est le bois de la Sainte Croix.
Bois de la Sainte Croix, donc il y a ces reliques qui sont conservées donc à Notre-Dame de Paris, enfin qui étaient conservées à Notre-Dame de Paris, couronne
oui,
d'épines.
Oui, ce sont les reliques que Saint-Louis a ramenées donc de Terre Sainte, puisque bon, au point de vue disons de différents endroits, de lieux de culte, il y a évidemment la Terre Sainte, puis les reliques qui vont être transférées à Constantinople, à Byzance, et puis, comme vous le dites, Saint-Louis qui va acheter à prix d'or des reliques de la Passion du Christ et qui va les amener pour sa Sainte-Chapelle.
Qui va les construire, donc il va construire la Sainte-Chapelle.
Il va construire la Sainte-Chapelle. Ce qu'on sait peu, c'est que le prix qu'il a donné pour les reliques elles-mêmes est nettement supérieur au prix de la construction de la Sainte-Chapelle. C'est vous dire l'importance des reliques au Moyen-Âge.
Alors parlez-nous de ces reliques du Christ. Les principales se trouvent où, hormis celles que vous venez de citer?
Évidemment, celles que Saint-Louis a ramenées, mais un peu partout dans le monde, on a comme ça des fragments. Parce qu'il faut distinguer ce que le grand public a comme considération des reliques, c'est-à-dire les ossements d'abord, hein, évidemment pour le Christ, comme dirait Guibert de Nogent, un moine du XIe siècle, la relique corporelle du Christ est une absurdité infinie. Mais il y a ces reliques corporelles des saints, des différents saints, des personnages importants. Puis il y a les reliques représentatives. C'est des reliques qui ont touché ces corps sacrés et qui se sont appropriées la vertu de ces corps sacrés. Alors les reliques historiques dont nous parlions, donc le bois de la Sainte Croix, c'est-à-dire celles qui sont attachées à un personnage ou à la personne du Christ.
Alors justement, je vous repose ma question. Les reliques qui concernent le Christ lui-même, donc les instruments de sa passion, le bois de la croix, elles ne sont qu'à la Sainte-Chapelle ou il y a d'autres lieux?
Oui, absolument. On en a beaucoup à Notre-Dame de Paris, puisque Notre-Dame de Paris, au XIXe siècle, a repris les reliques de la Sainte-Chapelle, qui faisait l'objet d'un pèlerinage très important, et les ont insérées dans une série de reliquaires du XIXe siècle. Elles ont heureusement été sauvegardées lors de l'incendie de Notre-Dame.
Alors il y a des reliques qui font un petit peu plus sourire, j'espère ne choquer personne quand on parcourt votre livre. Il y a les reliques de la Vierge et sa garde-robe, celle des rois mages. J'ai même vu que pour l'archange Michel, on avait des reliques d'une épée et d'un bouclier.
L'épée qui est figée dans le rocher, puisque je suis dans le sud, à Rocamadour, puisqu'on voit l'épée de l'archange qui aurait figé son épée, on voit une épée qui dépasse comme ça sur le rocher.
Que dire des reliques des rois mages ou des reliques de la Vierge?
Alors les rois mages, c'est un culte tout à fait... tout à fait important aussi, puisque les rois mages, les reliques vont être saisies par l'archevêque de Cologne et amenées à Cologne et faire l'objet d'un pèlerinage très important. Et on a trois corps à Cologne dans une énorme chasse, donc un énorme reliquaire qui incorpore comme ça ces reliques qui ont été amenées au XIe siècle à Cologne.
Et la Vierge et sa garde-robe, comme vous dites
Alors la Vierge et sa garde-robe, ce sont tout ce qu'on a pu attribuer à la Vierge, c'est-à-dire, vous savez, souvent dans les reliques représentatives, il y a une interprétation qui se fait au cours des siècles. On croit que c'est un objet qui a appartenu à tel ou tel saint. Et je dis la garde-robe, ça fait un peu rire, mais c'est ce qu'on trouve dans les textes, quoi. On trouve dans les textes anciens la garde-robe de la Vierge, on trouve, le voile de la Vierge ou toute une série d'objets ayant appartenu à la Vierge. Et évidemment, dans le culte de la Vierge, il y a la maison de la Vierge aussi à Éphèse et tout ce culte de Notre-Dame de Lorette qui est autour des souvenirs de la Vierge sur Terre.
Alors ce que j'aimerais, c'est que maintenant vous nous expliquiez, ces reliques, il fut un temps, avaient une place très importante. Il y avait des pouvoirs thaumaturgiques attachés donc à ces reliques, et puis oui. C'était aussi un signe de pouvoir. On pense par exemple à l'abbaye de Saint-Denis, en région parisienne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
Je crois que celui qui ne peut pas concevoir l'importance des reliques s'expose à ne pas comprendre la vie du Moyen-Âge, puisque les gens ont la croyance comme ça dans la thaumaturgie des saints, et encore actuellement, bien entendu, l'intercession des saints pour à travers les reliques. Ce qui est intéressant dans les reliques, c'est ce côté tangible. Les gens aiment bien pouvoir toucher, soit toucher la relique elle-même, soit toucher par l'intermédiaire d'un bâton ou par rapport d'un linge qu'on met sur la chasse. Encore actuellement, dans nos régions, moi je suis du Nord, on vient avec des branches qu'on vient mettre sur la chasse du saint, et puis on suspend les branches dans les étables pour protéger le bétail. Alors ça, c'est du côté thaumaturgie, bien entendu, tout ce qui s'est développé pour la guérison des gens. Mais il y a aussi les reliques de pouvoir, la politique des reliques. Les saints deviennent des protecteurs d'une région, des protecteurs d'une ville, et les grands laïcs vont s'approprier comme ça des reliques dans différents centres. En France, que ce soit en Normandie, que ce soit en Aquitaine, que ce soit en Alsace, on a comme ça des centres où les puissants vont amener des reliques, parce que les reliques vont, si vous voulez, justifier leur pouvoir, ils vont s'en servir.
Vous rapportez comme ça le fait que Charlemagne donc aurait dit que tous les serments devaient être prêtés dans une église ou sur des reliques. J'ai bien lu.
Ah, il y a le serment sur les reliques aussi. De bels exemples illustrés de ce serment sur les reliques, c'est sur la tapisserie de Bayeux où on voit Harold qui prête serment sur les reliques. C'est une belle représentation. Alors Charlemagne, c'est intéressant parce que c'est un homme du Nord, évidemment, de nos régions. Moi, je suis de la région Meusanne. Et Charlemagne va donner des reliques dans le Sud. C'est vraiment un grand pourvoyeur de reliques de beaucoup d'établissements du Sud. En 2017, j'ai tiré les conclusions du colloque de Fangeau de votre région, et on voyait Charlemagne un peu partout comme ça, qui ramène des reliques. Il y a évidemment toute la tradition du légendaire voyage de Charlemagne à Jérusalem et qui ramène des reliques dans nos régions, et il va comme ça en donner réellement à certains établissements qui vont en faire évidemment un très grand usage, puisque c'est évidemment pour les établissements religieux une source de revenus.
Vous expliquez aussi dans votre livre, vous faites un peu d'histoire des reliques, que dès les premiers siècles, les reliques ont eu une importance. Ce sont les martyrs romains martyrs du temps de l'Empire romain qui étaient à l'honneur. Vous l'avez dit, donc le Moyen-Âge, vous l'avez laissé entendre, a été la grande période des reliques. Quid de la suite? Si vous deviez dresser quelques grandes périodes, est-ce qu'après le Moyen-Âge, le culte des reliques disparaît?
Mais évidemment, le culte des reliques va être dénoncé à certaines époques, et même à l'intérieur de l'Église. Je vous parlais tout à l'heure de Guibert de Nogent, c'est un personnage qui m'intéresse, parce qu'il y a deux grands traités de reliques, dont un de Guibert de Nogent sur les reliques, on est aux alentours de 1100, et qui s'insurge contre les abus qu'il constate comme ça envers les reliques. Alors déjà donc cette critique, mais évidemment la critique la plus sévère, c'est celle de la réforme avec Luther qui va afficher ses thèses à Wittenberg. Wittenberg, c'est un centre très important de conservation de toute une série de reliques. Donc il y a évidemment cette critique à la réforme, que ce soit par Luther ou que ce soit par Calvin qui va écrire un traité des reliques. C'est lui qui est à l'origine de cette histoire que si on réunissait tous les bouts de bois de la croix, on finirait par faire un très gros navire. Donc vous voyez, tout ça c'est vraiment le gros coup. Alors dans certaines régions, on va détruire les reliques du côté de la Loire, par exemple, du côté du sud-ouest, on va vraiment détruire les reliques à la Réforme. Puis il va y avoir un regain, si vous voulez, au XVIIe, au XVIIIe siècle, malgré tout, mais avec un esprit peut-être critique. Il y a la réforme, évidemment, de l'Église, le Concile de Trente, les différentes mesures prises par l'Église pour réglementer le culte des reliques. Et puis ça va être la Révolution. La Révolution, on va avoir le même phénomène qu'à la Réforme.
Vous dites qu'elle porte un coup fatal à la dimension
de
reliques.
Je crois, et de point de vue aussi, vous savez, je suis historien de l'art, donc inévitablement, tous les magnifiques reliquaires, parce qu'il faut dire que toutes ces reliques sont à l'origine de construction d'édifices, mais aussi de construction de châsses, de reliquaires. C'est vraiment le développement de l'art au Moyen-Âge à travers ces reliques. Eh bien, ces reliques vont subir un fort coup à la Révolution. On va en détruire beaucoup. Vous parliez de Saint-Denis tout à l'heure. Le trésor de Saint-Denis, évidemment, va subir des coups. Maintenant, il est conservé en grande partie au Louvre, ce qu'on a pu, évidemment, retrouver. Et puis, alors, au XIXe siècle, il va avoir un nouveau regain d'attention, de vénération pour les reliques et la confection de beaucoup de reliquaires. Vous parliez de Marie-Madeleine tout à l'heure. Bah, il y a le reliquaire qui est fait à Vézelay par Poussy-Aigle-Russan, qui sont des orfèvres français, parisiens plus exactement, du XIXe siècle, pour une relique de la Madeleine qui est conservée à Vézelay. Et on va avoir comme ça toute une série de productions de reliquaires néo-gothiques, néo-romans au XIXe siècle et vraiment dans certaines églises parisiennes et françaises au sens large, on va avoir par des orfèvres du XIXe siècle la production de très beaux reliquaires.
Pour finir, Philippe Georges, j'avais une question. Vous avez un chapitre où vous laissez entendre donc la science, évidemment, a quelque chose à dire sur les reliques. Mais est-ce que, dans le fond, c'est comme ça qu'il faut aborder, même en historien, la question des reliques? Est-ce que le fond de la question, c'est de savoir si elles sont vraies ou pas, si elles sont authentifiables ou pas?
Ben, écoutez, moi ça m'intéresse comme historien, je dirais en provocation, plus elles sont fausses, plus elles m'intéressent, pour reconstituer évidemment ce qui a concouru à faire de fausses reliques. Mais ça n'a aucune importance d'un point de vue théologique. Déjà, Guibert de Nogent disait que peu importe si les fidèles prient devant un faux saint ou que Dieu voit le fond des cœurs. Et je crois qu'il a tout à fait raison. C'est ce besoin que les gens ont d'avoir un intercesseur par le saint vers Dieu. J'ai fait beaucoup d'analyses et vous savez, un spécialiste aussi en France, Yves Charlier, qui fait des analyses du corps de Saint-Louis ou de corps de différents saints, etc. Bah, c'est quand même intéressant parce que ça permet, disons, pour l'historien, l'archéologue, de remettre, si vous voulez, le développement du culte dans la période et d'amener un élément supplémentaire dans un dossier d'un saint. Et les reliques, dans un dossier hagiographique, donc c'est un dossier concernant toute hagiologie, même qui concerne toute la vie du saint, bah, les reliques ont vraiment une grande importance puisque au cours des siècles elles vont obtenir une vénération.
Eh ben, merci beaucoup de cette rapide photographie historique, Philippe Georges. Je rappelle le titre de votre livre, Reliques se connecter à l'au-delà, paru aux éditions du CNRS. On va faire une première pause musicale et puis on va retrouver nos autres invités pour parler un peu plus de Marie-Madeleine, nous promener dans les Écritures et interroger à la fin de cette émission Monseigneur Ginoux sur le sens du retour de cette dévotion.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Reliques, histoire, essence d'une dévotion, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Avec nous, pour rappel, était avec nous au début de l'émission, et c'était trop court, c'est ce que je me suis dit à la pause musicale. Est-ce que Dieu sait si son érudition est grande et le sujet passionnant. Philippe Georges, conservateur honoraire du musée et trésor de la cathédrale de Liège et auteur d'un ouvrage intitulé « Reliques se connecter à l'au-delà ». François Dromard, qui est conférencier et membre de la communauté Réjouis-toi, et Mgr Bernard Ginoux, évêque de Montauban, qui nous rejoindra un petit peu plus tard. François Dromard, donc vous avez la responsabilité de nous aider à découvrir un petit peu plus Marie-Madeleine. On peut dire en introduction, et on a décidé de ne pas en faire, enfin j'ai décidé de ne pas en faire le sujet principal de l'émission, que les reliques de Marie-Madeleine donc, qui viennent, qui sont conservées donc, à la Sainte-Baume, dans le diocèse de Fréjus-Toulon, sont des reliques supposées dont on retrouve la trace au XIIIe siècle, et après on arrive à la suivre, qui a eu la reconstitution comme d'un visage aussi. On peut trouver ça dans la presse à partir des photos faites de son crâne, et qu'une datation donc, au carbone 14 serait dans les tiroirs. Ça c'est pour l'aspect scientifique. Avec vous, on va plutôt parcourir les écritures. Déjà, il y a une question pour ceux qui ont l'habitude de lire un petit peu les évangiles, c'est que des Maries, il y en a plusieurs. Quid de Marie-Madeleine ? Est-ce une parmi les autres Maries, hormis la mère de Jésus, ou faut-il imaginer qu'il y en ait plusieurs ?
Alors, dans les évangiles, nous avons une femme qui est anonyme, qui va donc vivre cet épisode de l'onction, de verser le parfum sur Jésus. Et puis, il y a Marie de Magdala, et puis Marie-Madeleine, sœur de Marthe et de Lazare, donc Marie-Madeleine de Béthanie.
Donc des amis de Jésus, là en l'occurrence, mais on y reviendra. Et alors vous, votre thèse, et vous n'êtes pas le seul, puisque semble-t-il avant vous, le grand Lacordaire considérait donc, que ces trois femmes, il ne fallait qu'en faire qu'une. Comment est-ce que vous étayez un petit peu votre propos, ou est-ce comment Lacordaire l'étayait ?
Alors la question reste ouverte, je crois que les biblistes ne sont pas d'accord. Je crois que d'ailleurs les dominicains de la Sainte-Baume sont aussi dans cette thèse de rassembler les trois Maries, enfin la femme anonyme dans Luc et Marie de Magdala et Marie-Madeleine. Nous n'avons pas, à vrai dire, de preuves qui pourraient nous faire penser sur une thèse ou sur une autre. Ce qui me semble important, c'est que Marie-Madeleine est une femme quand même très, 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 très intéressante, une femme de feu, une femme avec une détermination, alors qui n'a, dans les évangiles, aucune parole, mais qui a des actes. Et des actes qui ont un poids très important.
Alors, redites-nous donc ce que font un petit peu plus donc le visage de ces trois femmes, et pourquoi est-ce qu'on pourrait considérer donc que c'est une et une seule ?
Alors,
racontez-nous les trois épisodes peut-être.
Alors, il y a donc trois épisodes dans l'évangile. Il y a l'épisode de l'onction, il y a l'épisode...
Alors si on s'arrête sur chacun, l'onction, pour imaginer que les gens n'aient pas lu les Écritures, c'est cette femme donc, qui arrive chez un pharisien. Alors, dans l'évangile selon saint Luc.
Selon saint Luc, donc chez Simon le pharisien, cette femme s'approche de Jésus, verse un parfum sur ses pieds et les lave d'abord de ses larmes et les essuie ensuite avec ses cheveux. Et on est là, elle est aussi à côté donc d'un pharisien qui est outré, donc elle a vraiment un environnement hostile, et donc son geste prend d'autant plus d'importance qu'elle doit aller au-delà des regards des approbateurs de son entourage.
Ça c'est le premier épisode. Le deuxième ?
Le deuxième épisode c'est à la croix. Une des Maries, puisqu'il y a d'autres Maries, il y a la mère de Jésus, et puis Et puis au moment de la résurrection, le troisième épisode où on la retrouve. Et ce qui me semble très, très intéressant de remarquer, c'est qu'à chaque fois que l'on parle de Marie-Madeleine, on la voit au pied de Jésus.
Alors des Marie-Madeleine, il y en a aussi une non, qui avait été libérée de 7 démons. Alors, il y a aussi celle qui est donc la sœur de Marthe dans l'évangile où elle se retrouve au pied de Jésus et sa sœur lui fait la leçon parce qu'elle ne prépare pas le repas.
Voilà.
Ça fait beaucoup de Marie, en fait.
Ça fait beaucoup de Marie.
Alors, qu'est-ce qui, pour vous reposer la question, qu'est-ce qui fait qu'on peut considérer que c'est une et une seule, que certains ont cette thèse et pourquoi est-ce que vous la soutenez, celle-là?
Parce que je crois que c'est surtout, à mon avis, l'épisode de l'onction, qui se déroule selon tous les évangiles, peut-être pas dans Saint-Luc, mais dans les autres, à Béthanie et avec Simon le pharisien. Donc ça peut nous permettre de penser que c'est bien la même femme.
Alors il y a deux choses que vous voulez souligner à propos de cette femme. C'est que c'est une femme disciple, et vous allez nous dire en quoi ça peut être surprenant ou nouveau. Et c'est une femme prophète. Disciple, vous l'avez dit donc à plusieurs reprises, elle se trouve au pied de Jésus. Et alors ça je ne l'avais jamais entendu. Être au pied de quelqu'un à cette époque, ça a une signification particulière.
Oui, on le remarque par exemple dans les Actes des Apôtres au chapitre 22 lorsque saint Paul se présente. Et il se présente comme disciple de Gamaliel et littéralement dans l'Écriture, c'est au pied de Gamaliel. Être au pied de quelqu'un, c'est être son disciple. Voilà. Et donc Marie-Madeleine, on a un petit peu même l'impression que c'est elle qui force un peu Jésus et qui se met toujours au pied de Jésus. Et on remarque que Jésus va au contraire la confirmer dans ce rôle puisqu'elle dit à sa sœur Marthe, Marie a choisi la meilleure part. Elle s'est située, en...
Et alors, ça avait quelque chose de tout à fait nouveau, parce qu'une femme n'était pas appelée à être disciple à l'époque, c'est ça?
C'était alors, dans le contexte,
pas la conception
dans
juive
le contexte
de...
biblique, la femme n'était pas un témoin valable, n'était pas une personne reconnue comme disciple. Et donc, elle ne pouvait pas suivre Jésus. Et on s'aperçoit que Jésus va avoir beaucoup de femmes qui vont le suivre.
Et puis, Marie-Madeleine, donc, qui est considérée comme l'apôtre des apôtres, puisqu'elle est la première donc, à rencontrer Jésus ressuscité au jardin, au lieu où il avait été enterré. C'est le fameux épisode dans les Écritures où il l'appelle par son nom et elle répond donc par ce rabouni, manière affectueuse de dire maître. Une femme prophète, qu'est-ce que ça veut dire, une femme prophète? Vous avez laissé entendre donc, qu'elle avait une grande audace. Est-ce que c'est ça, simplement, une femme prophète?
Alors, je crois que la caractéristique du prophète, on le voit dans l'Ancien Testament, quand on regarde un petit peu la vocation d'Isaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel, ils sont appelés souvent, d'ailleurs, quand ils sont jeunes, et ils répondent en disant « mais je ne suis qu'un enfant » ou « je n'ai pas la capacité d'être prophète ». Et la caractéristique du prophète, c'est justement de donner une parole de Dieu, une parole sur Dieu. Et c'est une parole qui implique au prophète de reconnaître sa fragilité, son incompétence. Et je pense que les femmes dans l'Évangile sont justement souvent plus aptes que les hommes à reconnaître leur fragilité et à pouvoir transmettre justement cette parole de Dieu.
Vous dites que c'est donc Georgette Blaquer, on avait fait une émission sur elle, figure française qui a travaillé à valoriser la grâce d'être femme, c'est le titre d'un de ses ouvrages, insiste donc sur cette dimension prophétique de la femme.
Oui, elle souligne que le rôle justement de la femme, c'est d'être prophète. On parle souvent de l'intuition féminine, que la femme qui par nature porte la vie et peut-être par cette capacité-là a plus de facilité. capacité à transmettre la vie et à transmettre la parole de Dieu.
L'autre chose que l'on peut dire à propos de Marie-Madeleine, et vous faites ce parallèle avec Pierre, l'apôtre Pierre, c'est qu'elle est... Elle est chez nous, j'ai envie de dire. Oui. C'est une femme, donc, à vous entendre, si c'est une et seule femme donc, qui aurait eu une vie un peu, on va dire, sentimentale compliquée, pour faire très bref, qui aurait connu la grande faiblesse d'être sous l'emprise des démons, qui a cette simplicité de se jeter aux pieds de Jésus, de l'essuyer, donc, d'essuyer ses pieds avec ses cheveux. Et puis vous dites à un moment sa tête aussi, c'est ça? Elle renverse un parfum sur sa tête.
Alors il y a deux versions dans les évangiles. Il y a une version où cette onction se fait sur les pieds. Et cette onction, je crois, a vraiment une dimension d'humilité, une dimension d'amour, d'intimité, d'une tendresse même sensuelle. Et puis il y a une onction sur la tête. Qui rappelle l'onction qu'on faisait sur les rois, puisqu'ils étaient oints, ils devenaient ainsi des messies, des Christs. Et donc c'est vraiment la confession que Jésus est bien le Messie.
En tout cas, donc une femme très humaine. Et alors, c'est l'occasion pour vous de rappeler l'importance des sens. Et dans le fond, c'est peut-être ce que viennent nous dire aussi les reliques. Que contrairement à l'idée qu'on peut se faire du christianisme ou l'image qu'on peut renvoyer aussi nous chrétiens ou nous catholiques, c'est évidemment une religion de l'incarnation. Alors expliquez-nous les sens, peut-être si vous deviez reparcourir un petit peu les différents sens, pourquoi et comment ont-ils toute leur place dans la vie chrétienne?
Alors oui, je crois qu'effectivement nos sens ont besoin d'être maîtrisés, mais qu'ils sont aussi une occasion de pouvoir confesser notre foi. Vous aviez à votre micro il y a quelques jours Daniel Vigne qui disait que les chrétiens ne sont pas des personnes insensibles, mais au contraire hypersensibles, et que les sens sont aussi un lieu qui nous permettent de vivre notre foi. Et Marie-Madeleine l'exprime de manière splendide, notamment par le toucher, puisqu'elle ose toucher Jésus, et ce sens du toucher peut nous faire penser à toute la dimension de tendresse, tout le rapport qui y a avec l'autre, qui demande une certaine distance, un certain respect. Le geste ne doit pas accaparer la personne, mais doit au contraire être un signe d'amour, un signe de tendresse.
Alors, si on reprend les différents sens rapidement, la vue, l'ouïe, par exemple, pour commencer.
Alors, l'ouïe, Marie-Madeleine est à l'écoute. Si elle est au pied de Jésus, c'est pour écouter sa parole. Et donc, et l'écoute est vraiment une injonction. Hein. C'est la prière Shema Israël du peuple juif, une invitation toujours à écouter avant de parler.
Voilà, pour la Bible, vous disiez que même si il nous est dit que nul ne peut voir Dieu, on peut entrevoir Dieu, qu'il nous arrive par exemple de percevoir certains visages transfigurés par la présence rayonnante de l'Esprit. Pour le goût, qu'est-ce que vous diriez sur le goût? Quelle est la place du goût dans la vie chrétienne?
Alors oui, le goût c'est un peu plus difficile, mais ça peut aussi nous faire penser à tout ce discours de Jésus sur le pain de vie qui suscite des réactions très vives, même très violentes, avec des gens qui le quittent parce que manger son corps, boire son sang, c'est quand même quelque chose qui est inacceptable.
L'odorat, donc, on l'imagine avec les parfums,
avec le parfum.
La bonne odeur du Christ dont parle saint Paul aussi, et puis donc le toucher. Vous, à titre personnel, François de Romard, les reliques, vous êtes sensible au fait, j'ai souvenir de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui était très friande de pouvoir toucher, tout ce qui pouvait parler de Dieu. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle comme fidèle?
Alors, c'est un moyen comme un autre. Hein. C'est, les reliques, c'est pas quelque chose qui m'est très familier. Voilà, ce que j'ai bien aimé dans justement ce qui nous a été dit en début d'émission, c'est que finalement, les reliques sont une invitation aussi à toucher. Donc on rejoint la piété populaire qui nécessite aussi d'utiliser les sens pour manifester la foi.
Voilà, les reliques de Marie-Madeleine qui sont au passage dans le sud-ouest. Je redonnerai tous les lieux et dates à la fin de l'émission. Reliques donc qui sont conservées dans différents lieux de France, et j'ai appris aussi, diocèse de Fréjus-Toulon, mais aussi à la Madeleine, à Paris, à Vézelay. Et puis, je le disais, il me semble, au début de cette deuxième partie, donc en 2017, a été confié donc à un certain Philippe Froesch la charge donc de prendre un certain nombre de photos à partir du crâne de Marie-Madeleine pour reconstituer comme un visage. Et j'invite les auditeurs à essayer de chercher ça sur Internet. On trouve le visage d'une femme qu'on imagine être sémite avec le nez, la couleur de peau, femme qui aurait fait 1m48 et qui aurait à peu près 50 ans. Et en tout cas, ces reliques qui sont conservées à la Sainte-Baume seraient bien d'origine méditerranéenne, même si elles restent, semble-t-il, à authentifier complètement. On fait une deuxième pause musicale et puis on va retrouver Monseigneur Ginoux qui va nous parler un peu du retour de cette dévotion. Dévotion qui n'est pas toujours du goût de tous, même dans l'Église. Et Monseigneur Ginoux, lui qui est sensible, il nous expliquera pourquoi.
Radio Présence à Gourdon 104.8. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Reliques, histoire, essence d'une dévotion, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin autour du plateau. Était avec nous au début de l'émission Philippe Georges, auteur de Reliques, se connecter à l'au-delà, paru aux éditions du CNRS. C'est avec nous François Dromard, conférencier, membre de la communauté Réjouis-toi, et Monseigneur Bernard Ginoux, évêque de Montauban. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Emmanuel, et à tous ceux qui sont avec vous et tous ceux qui nous écoutent, bonjour.
Merci d'avoir pris le temps dans votre agenda de répondre à quelques questions à propos des reliques. Alors, pour commencer, Monseigneur, pour ne trahir un secret de Polichinelle, dans l'Église, il y a un peu deux écoles à propos des reliques. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elles ne sont plus beaucoup à l'honneur depuis une cinquantaine d'années. Comment est-ce que vous expliquez, Monseigneur, tout simplement, cette défiance des fidèles contemporains? Quand on entendait Philippe Georges tout à l'heure nous parler du Moyen-Âge, et on voit bien que ce sont d'autres mondes. Alors pourquoi cette défiance?
Alors je suis à la fois d'accord avec vous et en même temps je corrigerai, c'est-à-dire que jusqu'à ces dernières années, on va dire jusqu'à la fin du XXe siècle à peu près, effectivement, c'était assez juste. On se défiait des reliques dans le cadre des évolutions de l'Église. On pensait que c'était des choses suspectes de ne pas être authentiques. Ensuite, ça rappelait trop la mort. Et puis, on avait aussi une fâcheuse idée qu'on faisait remonter, hélas, au Moyen-Âge, comme tout ce qui paraît archaïque. Mais en fait, aujourd'hui, il y a sans aucun doute un retour. Un retour, je laisse les historiens expliquer en quoi. Ce qui s'est passé dans la deuxième moitié du XXe siècle, et qui a été d'ailleurs, qui apparaît dans le code de droit canonique par rapport aux reliques, le nouveau code de 83 est très peu parlant des reliques. Eh bien, cette attitude semble, depuis la fin du XXe siècle, donc depuis une vingtaine d'années, changer, et je pense en particulier, peut-être, est-ce dû à cela, à l'importance qu'a prise l'ostension du suaire de Turin, qui a touché beaucoup de gens et qui est la relique par excellence, si nous y croyons.
Alors,
donc, oui.
Oui, Monseigneur, vous, des reliques, vous y êtes sensible puisque vous avez construire, ou en tout cas, où vous avez ouvert un sanctuaire de la Divine Miséricorde où sont conservées, sauf erreur de ma part, donc des reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Pourquoi est-ce qu'à titre personnel, pasteur.
D'abord, une relique de Sainte Faustine.
Sainte Faustine, pardon, excusez-moi.
Et ensuite, une relique de Thérèse de l'Enfant Jésus.
Alors,
oui,
pourquoi est-ce qu'à titre personnel, vous êtes donc très favorable à ce type de dévotion, et vous avez dans votre propre diocèse donc ouvert ce lieu de la miséricorde?
Eh bien, à la vérité, j'ai mis beaucoup de temps à être sensible aux reliques. Ce n'est pas du tout ce qui m'a attiré dans la foi de l'Église. Mais premièrement, le culte des reliques est lié à la vie de l'Église. Il fait partie de l'évangélisation. Il nous rappelle que le Christ est incarné, Dieu s'est fait homme, il a été corporellement présent dans l'humanité. Et d'autre part, les saints qui ont vécu et dont on tire ces reliques, avec aujourd'hui une expérience beaucoup plus juste, parce qu'il y a pu y avoir effectivement de fausses reliques, mais aujourd'hui on s'efforce, grâce à la science, j'ai évoqué le suaire de Turin, d'aller à la précision la plus forte. Eh bien, je pense que notre société a besoin de signes qui, comment dire, montrent la vie éternelle. C'est une manifestation de la foi de l'Église qui montre à la fois l'incarnation, la résurrection des corps, la communion des saints, et le fait que ces personnes-là, ces reliques venues de saints, témoignent que c'était des gens ordinaires. Vous voyez, au JMJ, on a plusieurs fois fait porter le corps ou les reliques de certains saints, en particulier de jeunes saints. Eh bien, ça a beaucoup touché les jeunes. Je parle là effectivement des années 2000. Donc, ça montre qu'il y a un appel aujourd'hui à la relique. Alors, pourquoi ça m'intéresse? Eh bien, parce que d'abord, on a des reliques des saints modernes. Ce qui veut dire de gens qui nous ont touchés, qu'on a pu rencontrer. Ce est une relation personnelle avec un saint, avec une personne qui est vivante dans l'éternité, enfin dans le ciel, dans l'attente de la résurrection finale, mais qui pour nous est vivante. Nous la prions à la messe, cette personne, nous invoquons les saints, eh bien, nous avons la possibilité, par ces reliques, d'en avoir un signe concret. Or, selon ce que vous avez dit, que pendant des années, on a débarrassé l'Église de tout ce qui semblait un peu magique ou superstitieux, il faut dire le nom, manque aujourd'hui aux gens qui s'attachent à toutes sortes. Regardez ce qu'on fait pour les acteurs de cinéma vedettes ou pour les chanteurs, Johnny Hallyday, etc. On a besoin de signes et le sensible, si vous voulez, est touché par la relique. C'est donc bien plus qu'un morceau d'os ou qu'un quelque chose qui est de la personne qui a vécu une vie humaine sur la terre pleinement. Et c'est un dépassement de la mort.
Monseigneur Bernard Ginoux, justement, un dépassement de la mort, pour finir, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe quand même dans les reliques? Est-ce que ce n'est pas là justement le paradoxe de la vie chrétienne? C'est qu'on prend pour mort ce qui est vivant. Ce qui est tout à fait à rebrousse-poil de toutes les mentalités contemporaines. C'est vrai, quand on voit les reliques, par exemple, oui, de Marie-Madeleine, c'est un oui, crâne. Oui. Au début, on a l'impression que c'est une fête Halloween qui a mal tourné, oui, vous voyez. Alors que dire de ces signes de contradiction?
C'est peut-être paradoxal, mais nous voulons dire par les reliques, nous ne sommes pas, encore une fois, attachés à ceci ou cela, nous sommes attachés à une personne qui a vécu la foi, qui a vécu dans la foi, qui a rencontré le Christ, qui est devenu un signe pour nous, mais cette personne, elle n'est pas désincarnée. Elle est là, et c'est pourquoi d'ailleurs, dans les funérailles, dans la célébration des funérailles, on rend hommage au corps, et on ne rend pas hommage aux cendres. La liturgie ne le fait pas, parce que les cendres ne sont plus rien, tandis que le corps, c'est le signe de la présence de la personne. Le corps du Christ, c'est la présence. Donc ces reliques sont signes de présence, sont signes que le saint est toujours là avec nous, et de l'avoir près de soi, au fond, c'est très humain, et en même temps, c'est très spirituel, puisque nous n'allons pas chercher des vieilleries pour les conserver, nous n'allons pas faire une collection d'ossements du passé, nous allons, à travers la relique, remonter à un saint qui a vécu dans la foi et qui nous est donné comme aide, modèle, et ainsi on s'adresse à cette personne, on établit une relation personnelle avec cette personne parce que nous savons qu'elle vit auprès du Seigneur. Nous la mentionnons à l'Eucharistie, donc ces saints, ils sont bien vivants pour nous. C'est ce que nous fêtons à la Toussaint, justement le contraire d'Halloween.
Pour finir, Monseigneur Ginoux, oui, la figure de Marie-Madeleine, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? On voyait avec François Dromard que c'est une femme donc, qui a été fait disciple par Jésus, on l'appelle même l'apôtre des apôtres. Elle souligne probablement le caractère prophétique attaché peut-être à la vocation de la femme. Que dire à l'heure où on s'interroge sur la place des femmes ou des hommes dans l'Église? Marie-Madeleine, qu'est-ce qu'elle doit nous dire à l'occasion de son passage dans le Sud-Ouest, le passage de ses reliques supposées?
En premier lieu, elle est le témoin de la miséricorde infinie de Christ pour la femme qu'elle a pu être. Je ne fais pas d'exégèse sur les trois maris ou ceci ou cela, mais la figure de Marie-Madeleine est celle qui a reçu la miséricorde du Seigneur et qui va être à jamais aguerrie de son péché, mais surtout remplie de l'amour de Jésus qu'elle veut faire partager aux autres. Et elle s'est attachée au Christ parce qu'il l'a libérée du péché. Il l'a ramenée dans l'amour véritable et non pas dans les fausses amours qu'elle pouvait poursuivre, selon la tradition. Donc, première chose, c'est la graciée, celle à qui le Seigneur a fait grâce, mais il fait grâce à tout le monde, mais elle était particulièrement exemplaire puisqu'on l'a désignée comme pécheresse. Celle aussi qui n'a pas hésité à venir évangéliser, c'est-à-dire elle a dû dire aux uns et aux autres, voici ce que le Seigneur a fait pour moi. Et donc elle est pour notre époque très significative, femme d'abord, femme aimée de Jésus qui l'a libérée de ses péchés, mais aimée de Jésus comme il aime toutes ses créatures, mais qui a reconnu cet amour miséricordieux, femme qui évangélise, qui annonce ce que le Seigneur a fait pour elle, et femme aussi qui représente pour notre époque une personne qui a été envoyée en quelque sorte en mission parce qu'elle est allée dire aux apôtres qu'il était ressuscité. Donc c'est la première qui annonce ça. Ce qui veut dire qu'elle a une place éminente, même si elle n'est pas prêtre ou évêque ou apôtre. Elle est l'apôtre des apôtres, c'est-à-dire qu'elle les évangélise, elle leur annonce la bonne nouvelle. Ce qui veut dire que c'est une figure tout à fait recevable. Et pour aujourd'hui, pour notre monde, et je suis heureux que ce soir à Montauban, à 20h à l'église Saint-Aurens, à Villebourbon, on puisse prier autour des reliques que les frères dominicains vont présenter.
Eh ben, merci beaucoup Monseigneur Ginoux, et puis d'avoir commencé à nous rappeler donc les détails pratiques. Avant les détails pratiques, je citerai donc ce passage dans l'évangile selon Saint-Marc. Oui. En vérité, partout sera proclamé l'évangile dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle a fait, dit Jésus. Les rendez-vous donc pour rappel 20h ce soir à l'église Saint-Aurens à Villebourbon. Demain 20h
Montauban.
Demain à 20h30 à l'église Saint-Jean-Baptiste à Libourne. C'est un peu plus loin, en tout cas chez nous, dans notre Midi-Pyrénées, jeudi 5 mars 20h30 au sanctuaire Notre-Dame d'Allée à Montaigu-sur-Save. Vendredi 6 mars 20h30 à l'église Saint-François à Toulouse et samedi 7 mars dès 15h au sanctuaire Saint-Jérôme à Toulouse. Tout ça, vous pouvez le retrouver évidemment sur le site de Radio Présence. Pour finir, je rappelle le titre du livre de Philippe Georges, donc livre fort savant sur l'histoire des reliques et leur place dans l'histoire de l'Europe et de l'Église, Reliques connectées à l'au-delà, pardon, paru aux éditions du CNRS. Merci beaucoup aux uns et aux autres d'être venus ce matin au micro de Vivante Église. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.